Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis, un ami à moi qui s'est lancé en freelance alors qu'il venait à peine de passer le bac en parallèle de ses études. Moi perso, j'ai pas eu ce déclic de l'entrepreneuriat aussitôt et je trouve ça hyper intéressant de discuter avec Alexis de sa vision du freelance, de ses peurs et de comment il fait aujourd'hui pour gérer ses études en parallèle de son activité de développeur web. Dans cet épisode, on va donc parler des peurs qu'on peut avoir quand on se lance aussi jeune, mais on va voir justement que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. On va également aborder la question de l'importance des études dans un domaine dans lequel, d'après ce qu'on pourrait croire, on pourrait tout apprendre sur Internet. Et à la fin de cet épisode, Alexis nous donnera quelques conseils si on veut se lancer en freelance, peu importe son âge. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Alexis. Salut Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Écoute, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement, comme ça les auditeurs savent un peu qui tu es, et puis après on pourra rentrer dans des questions un peu plus profondes, on va dire.
Salut Quentin, alors tout d'abord merci pour l'invitation, c'est super cool de participer à ton podcast. Je suis étudiant et freelance en même temps. Je suis étudiant en licence pro développement et intégration de web app en alternance en tant que développeur full stack dans une petite entreprise dans la Normandie et je suis à l'école sur Laval. Il me reste environ 5 semaines de cours, donc je suis à la fin de mon cursus, on va dire, et je fais du freelance à côté, principalement tourné sur du développement web dans le domaine du e-commerce, donc avec Shopify. Ça fait 3 ans que je me suis lancé en freelance en parallèle de mes études.
On va approfondir un peu tout ça. Donc là, tu me dis, ça fait 3 ans que tu es en freelance. Une licence, si tout se passe bien, ça dure 3 ans également. Ça veut dire que si je comprends bien, tu as commencé le freelance assez rapidement dans tes études, ou en tout cas assez rapidement après ton bac. Quelles connaissances tu avais déjà quand tu t'es lancé en freelance? Est-ce que ça t'a pas fait peur de te dire... est-ce que tu t'es pas senti un peu pas légitime, dans le sens où tu venais à peine de commencer tes études et tu t'es dit, sur le marché, il y a déjà plein de gens qui ont des diplômes, qui font ça depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es lancé en freelance?
Alors tout d'abord, j'ai commencé le développement web vers mes 13-14 ans, on va dire. J'avais envie de créer un blog. Et j'avais commencé du coup avec le CMS Blogger de Google. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était assez pratique à l'époque. Je suis tombé sur un tuto, enfin sur un blog avec un tuto qui permettait de créer son blog de A à Z. Mais pour cela, il fallait savoir coder, donc il fallait utiliser du HTML, du CSS, du JavaScript et du PHP. Et donc, j'ai d'abord commencé à regarder ce qu'était le HTML et le CSS sur le site Open Classroom, que tout le monde connaît. Et j'ai commencé par faire les premiers tutos de Open Classroom et ça m'a vachement intéressé. Donc, du coup, j'ai continué comme ça à apprendre. J'ai fait mon premier site en HTML, CSS. Bon, ça a pris pas mal de temps. J'ai pris peut-être 6 mois, 1 an avant de vraiment avoir un site qui ressemblait à un site, on va dire. Et ensuite, je me suis intéressé au PHP et au JavaScript. J'étais en contact avec, suite à un stage en troisième, j'étais en contact avec un développeur qui m'a vachement aidé dans mon apprentissage. Il m'a un peu guidé sur quoi apprendre. Et quand j'avais des problèmes, en fait, je lui envoyais un petit message et puis il m'aidait à débugger un peu parce que quand on est aussi jeune, c'est un peu compliqué de comprendre vraiment tout comment ça fonctionne et débugger tout seul quand on débute. Et donc, j'ai mis, 2 ans à sortir mon premier site en HTML, CSS et PHP avec un peu de JavaScript. Donc, c'était un blog complet qui permettait d'écrire des articles avec une partie d'administration qu'on pouvait se loguer et ajouter des articles, les modifier, les supprimer, enfin un site un peu basique. Mais c'était intéressant et du coup, j'ai continué là-dedans. Et un an après, j'étais en contact avec une personne qui était présidente d'une association pour des handicapés pas très loin de chez moi. Et du coup, elle m'a proposé de faire la refonte de son site. Et en fait, c'est là que bah, j'ai vu qu'il y avait une opportunité et que grâce à ça, en fait, je pourrais continuer d'apprendre et me former en créant des sites pour d'autres personnes et en même temps gagner de l'argent. À côté, donc c'est toujours bien de travailler sur des projets en plus qu'on aime et gagner de l'argent en même temps et progresser et prendre en compétences.
Ouais, carrément. Et effectivement, tout à l'heure, tu disais que t'as eu, enfin, ça t'a été très bénéfique de rencontrer cette personne qui, du coup, était ton tuteur de stage, c'est ça, pendant ton stage de troisième?
Non, même pas, c'était un ami du tuteur de stage qui venait de temps en temps lui rendre visite parce que j'étais dans une entreprise d'informatique qui réparait des ordinateurs.
D'accord.
Et du coup, il était ami avec un développeur. Et en fait, c'est ce développeur que, bah, en fait, pendant le stage, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'étais en train d'apprendre du HTML et du CSS. Et du coup, il a trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec et qu'on est resté en contact et qui m'a aidé à progresser dans un premier temps sur des technologies comme le PHP et le JavaScript.
Ouais, carrément. Et du coup, donc cette première mission, on va dire, avec l'association que tu as trouvée, c'est toi qui allais la chercher ou enfin comment tu définirais ça? Est-ce que c'est une chance, un concours de circonstances? Est-ce que c'est toi qui allais les chercher ou est-ce que c'est eux qui t'ont repéré quelque part?
En fait, la personne, la présidente de l'association, elle faisait du sport avec moi dans le même club que moi. Et du coup, en échangeant sur que je faisais du développement à côté, parce que j'étais encore en troisième ou seconde, enfin, je ne sais plus exactement c'était à quel moment,
Ah oui.
je lui ai dit que je m'amusais à créer des sites à côté. Et en fait, ça l'a intéressé parce qu'elle cherchait un développeur pour refaire son site. Et du coup, elle m'a contacté, enfin, elle m'a demandé si ça m'intéressait de développer un site pour elle, pour son association. C'était très intéressant. Ça m'a pris peut-être 3-4 semaines, mais pour un site vitrine, bon, actuellement, je ne prendrais pas ce temps-là pour faire un site comme ça. Et puis, la rémunération, je me rappelle même plus, je crois que c'était un disque dur SSD qu'elle m'avait offert en échange pour me remercier parce que je n'avais pas encore de statut d'auto-entrepreneur où j'avais rien pour être payé en fait. Et du coup, elle m'a offert un disque dur plutôt que me donner de l'argent.
Ouais, tout à fait. Ok. Et donc ça, c'était ta première mission. Et après cette première mission, là, tu t'es rendu compte effectivement que tu pouvais bah, commencer un peu à gagner ta vie avec tes compétences. C'était donc ça, c'était vers le début de lycée. Comment est-ce que après t'as réagi? Est-ce que tu t'es dit, ok, enfin, t'étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'es dit, c'est quelque chose que je vais essayer de pousser à fond? Je vais essayer de me renseigner sur ce fameux freelancing? Parce que je suppose que c'était encore un peu flou pour toi, le fait de pouvoir travailler à ton compte. Enfin, je sais pas, depuis tout petit, on nous dit, il faut trouver un diplôme, il faut trouver un employeur, machin, etc. On a une vision assez classique, on va dire, du travail. Et là, je suppose que ça, bah, ça t'a un peu chamboulé, dans le sens où tu t'es dit, ah, il y a une toute. Un tout autre monde qui s'ouvre à moi. Dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que tu t'es dit ok, je fonce dedans ou est-ce que c'était encore un peu flou?
En fait, il s'est passé peut-être 1 à 2 ans avant que je crée mon entreprise. Tout d'abord, en fait, j'en ai parlé avec mes parents que je voulais me lancer en auto-entreprise, mais j'étais encore mineur à ce moment-là. Et du coup, ils avaient un peu peur que je me lance dans la création d'une entreprise alors que j'étais encore étudiant, enfin, j'étais encore lycéen. Et du coup, bah, j'ai attendu vraiment mes 18 ans pour créer mon entreprise. Et c'est un peu grâce aux vidéos d'Antoine BM et d'autres créateurs de contenu sur Internet qui m'ont un peu ouvert l'esprit à la liberté, on va dire, de se lancer en étant indépendant.
Et donc tu nous parlais justement du fait que tu n'étais pas encore majeur. Est-ce que tu t'étais un peu renseigné sur les possibilités d'ouvrir son auto-entreprise quand on est mineur ou pas?
Oui, j'avais regardé. En fait, j'étais tombé sur un reportage à la télé sur M6, je crois. C'était un jeune de 16 ans qui était lycéen et qui était développeur, enfin qui était en auto-entreprise à côté de ses études et qui s'amusait à créer des sites pour des entreprises. Et donc j'ai trouvé ça très inspirant aussi.
Tu m'étonnes.
Et du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé comment c'était possible. pour créer son entreprise en étant mineur. Et donc, il fallait l'autorisation des parents, il fallait que les parents soient d'accord. Et donc, j'ai préféré plutôt continuer d'apprendre à me former plutôt que me lancer directement. Et en fait, j'ai créé mon entreprise à 18 ans parce que en fait, j'avais une opportunité avec une entreprise pour créer un site.
D'accord, ok. Ouais, j'allais te poser un peu la question, est-ce qu'avec le recul, tu aurais préféré créer ton auto-entreprise à 16 ans ou est-ce que tu te dis, bah, j'ai bien fait d'attendre parce que ça m'a permis de me former pendant 2 ans? Parce que, bon, c'est vrai que on peut avoir le déclic de se dire, j'ai envie de créer mon entreprise tout court avant ses 18 ans, mais bon, en général, ça n'arrive pas non plus à 12 ans. C'est vrai que moi, les personnes qui me contactent, qui me disent, est-ce qu'on peut créer une entreprise quand on n'est pas majeur, bon, en général, elles sont proche de la majorité. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que t'aurais dû ou ça aurait été bien de créer ton entreprise plus tôt? Ou bah, au final, quand on a 15, 16, voire 17 ans, le mieux c'est de continuer à se former, éventuellement de faire des petites missions au black, mais quand je dis au black, c'est même pas au black, c'est-à-dire c'est créer un site ou une application pour tonton machin ou pour le voisin, et ensuite d'attendre 18 ans et puis là de commencer les choses sérieuses une fois qu'on est déjà bien formé, quoi.
Bah en fait, ouais, avec du recul, je pense que non, c'était bien de me lancer plutôt à 18 ans que me lancer aussitôt à 16 ans, parce que ça m'a permis d'explorer un peu les possibilités du web, du développement web. Et du coup, j'ai pu plutôt me concentrer sur des projets un peu personnels que faire des sites pour des clients, parce que ça prend beaucoup de temps de faire des sites en parallèle de ses études. Et donc, ça m'a permis vraiment de me consacrer vraiment à ce que je voulais faire et pas uniquement sur des projets clients à faire des sites.
Est-ce que tu as fait des erreurs quand tu t'es lancé? Parce que c'est vrai que, bon, 18 ans, on va pas se cacher, hein, c'est jeune. Est-ce que c'est trop jeune? Non, je dirais qu'on n'est jamais trop jeune pour se lancer dans un truc. Est-ce que tu as fait des erreurs notables que tu aurais peut-être pas forcément fait si tu t'étais lancé, je sais pas, plus jeune, moi, à 25 ou peut-être 30 ans? Enfin, tu sais pas encore répondre à ça, mais est-ce qu'il y a des erreurs notables que tu as faites?
Bah, je pense que oui, déjà la facturation. Bah, mes premières missions, je ne savais pas trop déjà comment facturer, comment que ça se passait. J'ai appris en créant mon entreprise à créer des devis, créer des factures, échanger avec des clients aussi. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école quand on est au lycée, on va dire, d'échanger avec des clients et communiquer aussi avec des clients. Donc, c'est pas mal de points que j'ai dû apprendre sur le tas. Et au début, je vais pas me cacher, mais c'était quand même compliqué de savoir comment facturer et savoir combien de temps ça allait me prendre. Et du coup, je passais plus de temps que prévu à travailler sur le projet pour au final pas gagner énormément. Aujourd'hui, quand je regarde combien je gagnais quand je me suis lancé, actuellement, le prix que je facturais, c'est limite le prix de une ou deux journées de travail, alors que je passais peut-être un mois dessus.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais
Ouais,
bon, c'était pas principalement pour gagner de l'argent, c'était vraiment pour me former aussi, parce que il faut pas se dire qu'on va gagner 10 000 euros par mois quand on se lance en freelance quand on a 18 ans. Il faut surtout se dire que c'est des compétences qu'on gagne, et ça, c'est quand même super important quand on débute de gagner des compétences et de l'expérience.
c'est ça, exactement. T'es payé en compétences et en expérience, t'es payé en échec qui fait que après tu sais mieux comment réagir quoi. Mais au final, est-ce que tu penses que ces erreurs-là, t'aurais pu les éviter, je sais pas moi, avec un certain type de diplôme, après 5 ans d'études ou après 5 années d'expérience dans une entreprise? Est-ce qu'au final, c'est pas des compétences que...
Qu'on apprend
Enfin,
sur le tas, oui, que tout le monde
voilà, c'est
rencontre, que
ça.
tout le monde peut rencontrer. En vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah, avec mon parcours, en fait, je me rends compte que c'est des choses que j'ai appris au fil du temps. Mais je sais pas si par exemple je m'étais lancé demain, je sais pas si c'est des erreurs que j'aurais évitées ou pas. Je peux pas savoir. Il faudrait que j'en parle avec d'autres personnes de ma classe, par exemple, pour savoir si eux, en se lançant aujourd'hui, ils éviteraient de faire ces erreurs-là et.
Ouais, tout à fait. Genre là, tu parlais un peu de la communication. Oui, c'est vrai que, enfin, moi, je prends l'exemple d'une école d'ingénieur parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai fait. On n'a pas un cours de communication, Mais c'est vrai que durant les 2 années de prépa qui suivent le bac et les 3 années d'école d'ingénieur, bah voilà, il y a des exposés, il y a des rapports de stage, il y a éventuellement des calls pendant les prépas, et ça aide énormément à communiquer. Donc oui, enfin je veux dire, c'est l'expérience de vie en général. Enfin, peu importe ce que tu fais, si tu fais des longues études, des courtes études, puis un job, tu seras forcément amené à éventuellement faire un peu d'administratif, te retrouver devant plusieurs dizaines, voire centaines de personnes pour transmettre une idée, donc forcément ça aide, mais au final, enfin je veux dire, on trop souvent je trouve qu'on attend d'être plus formé, d'être plus compétent là-dedans, d'en savoir plus dans tel ou tel domaine, et puis on attend toujours pour se lancer, et puis au final on se rend compte que bon bah c'est bien, mais je veux dire, est-ce que attendre 1 an, 2 ans, 3 ans de plus pour essayer de comprendre toutes les subtilités du statut d'auto-entrepreneur, de machin, truc, est-ce que ça vaut le coup d'attendre 3 ans au lieu de se lancer et puis de tout apprendre un peu par l'erreur et puis être confronté dessus en 3 mois d'expérience, quoi.
Parce que oui, parce qu'actuellement, par exemple, je ne regrette pas du tout de m'être lancé aussitôt, parce qu'au final, quand je regarde tout ce que j'ai pu apprendre en 3 ans d'expérience en freelance, c'est énorme. C'est des choses que j'aurais pas appris si je m'étais pas lancé directement comme ça à 18 ans.
Ouais, tout à fait. Et justement, là, tu nous parlais de tes premières expériences pour créer un site, on va dire classique, mais sur lequel il y a déjà, par exemple, une gestion back-end, donc une gestion des données et puis une partie administrateur. Donc ça, c'est quelque chose que tu savais déjà plus ou moins bien faire quand tu as commencé à te lancer en freelance, parce que je suppose que maintenant, tu as appris encore énormément de choses et tu te dis à l'époque, au final, genre je faisais ça complètement de la mauvaise manière ou peut-être pas avec les bons outils, etc., etc. Est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer à l'heure actuelle, peu importe qu'il soit jeune, encore étudiant ou pas, mais qu'il soit encore débutant, on va dire, dans le domaine de la programmation, qu'est-ce que tu lui conseillerais de savoir avant de se lancer, le minimum, on va dire, à savoir avant de se lancer?
Bah, tout d'abord, déjà, avoir des bases de programmation. Aujourd'hui, c'est très facile de se lancer dans le développement. Il y a énormément de contenu disponible en ligne. Il y a énormément de tutos sur YouTube. Il n'y a même pas besoin de payer pour se former. Il y a énormément de ressources. Et les outils, je trouve qu'ils sont de plus en plus faciles aussi à utiliser. Avant, il fallait, par exemple, avoir un serveur pour pouvoir lancer un projet, pour mettre un projet en ligne. Maintenant, avec, par exemple, Netlify, c'est une plateforme qui permet de déployer des sites en ligne à partir d'un dépôt GitHub. Bon, bien sûr, c'est sans serveur, mais par exemple, ça, on peut le faire en 10 secondes et en regardant une vidéo, on peut apprendre à le faire. Et ça, il y a 5 ans, il y a même 10 ans, 5 ans, c'était compliqué et c'était même compliqué de se former. Et je trouve qu'on peut facilement se former et on peut faire des projets aussi. Il y a énormément de possibilités et il ne faut pas hésiter à tester, à faire des projets, même si c'est des projets qui vont échouer et qui ne vont pas aller au bout. Au moins, tester et continuer d'apprendre en faisant des projets.
Ouais, carrément. Et toi, du coup, qui t'es lancé un peu avant tes études, parce que quand je dis études, je compte plus les études supérieures, quoi, parce que c'est vraiment là où tu te spécialises. Toi, qui t'es lancé un peu avant, voire pendant tes études, est-ce que tu dirais justement qu'on peut, avec bien sûr des efforts assez conséquents, une certaine discipline, mais est-ce qu'on peut commencer à gagner sa vie en freelance, en indépendant, sans avoir forcément suivi ou terminé ses études, en gros juste avec les compétences qu'on peut trouver sur internet ou peut-être avec des mentors, mais sans passer par la case études supérieures de 5 ans ou plus, quoi.
Je pense que oui, c'est possible. Après, quand on s'est connu, tu savais très bien que je voulais arrêter mes études, enfin, je voulais arrêter mon DUT pour me lancer à plein temps. Et au final, maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je trouve que les études, ça permet d'avoir un cadre et ça permet de un peu nous cadrer pour apprendre de nouvelles choses et avoir des bases, on va dire, solides. Donc, c'est possible de le faire, mais je trouve qu'en passant par une formation un peu plus classique, on va dire scolaire, ça permet d'avoir vraiment des bonnes bases pour ensuite progresser et continuer d'apprendre indépendamment, enfin en étant indépendant.
Et toi, du coup, donc là, t'as presque terminé tes études, enfin en tout cas la partie licence. Comment tu qualifierais la répartition, on va dire, des connaissances que t'ont apportées, donc la partie études vraiment classique, et ce que t'as fait toi à côté? Je sais pas si on peut donner, je sais pas, un pourcentage ou mais voilà, comment est-ce que tu vois la partie études classiques et comment est-ce que tu vois la partie je me suis formé moi-même?
Je dirais peut-être 35% des études et 75% le reste.
Ouais.
65% le reste plutôt.
D'accord.
Parce que en soi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris tout seul. Je me suis beaucoup formé tout seul. Par exemple, les technos comme React, Node.js, c'est des technos que j'ai pas du tout appris en DUT. C'est des technos qu'on est en train de voir en licence. Mais j'avais déjà des très bonnes bases, on va dire, en dehors de l'espace scolaire.
Ouais, et c'est vrai que là, effectivement, t'as donné un chiffre qui, moi aussi, par rapport à mes études et ce que j'ai appris un peu à côté de celle-ci, c'est clairement un chiffre que j'aurais pu donner aussi. Mais en fait, moi, je trouve, et je sais pas si t'es d'accord avec moi, que bah, les études, en fait, effectivement, si on prend, si on prend la métaphore, je sais pas moi, d'une maison ou d'un truc qu'on veut construire sur des fondations, bah les études c'est un peu les fondations, c'est-à-dire que tu poses les briques, tu poses la dalle en béton, et après tu viens construire ton maison, ta maison, ta cabane, ton immeuble de plusieurs centaines d'étages dessus. Et en fait, c'est assez compliqué de se rendre compte de l'importance des études parce que justement c'est les fondations, elles sont cachées, elles sont elles font, enfin en termes de matériaux elles représentent peut-être 10% de ce que tu veux construire au-dessus, mais si elles sont pas là, ben tu peux construire un certain un tas de connaissances, mais disons qu'elles vont être bancales, elles vont pas être très stables et ça peut se casser à tout moment quoi. Et c'est vrai que ça c'est assez difficile à comprendre parce qu'on peut très facilement se dire oui, sur Internet on peut tout apprendre, ce qui est vrai. Je pense qu'on peut même tout ce qui est enseigné durant des études, peu importe la formation, je pense qu'on peut tout retrouver sur Internet. Mais après, effectivement, il y a ce cadrage qui nous permet de consolider des bases et
Exactement, parce que par exemple, moi je me suis lancé, enfin j'ai commencé à apprendre le développement vraiment avant de faire ma formation en DUT. Et en fait, je me suis rendu compte au fil de mes 2 ans à DUT et bah, qu'il y avait des connaissances que j'avais apprises, mais j'avais besoin quand même de les consolider parce que en fait, l'école, oui, c'est ça, il y a un cadre et du coup, on approfondit un peu chaque point et ça permet vraiment d'avoir de très bonnes fondations.
ouais. Et est-ce que t'as fait face à des difficultés pendant tes études? Alors a priori, la question elle se pose aussi bien pour les difficultés en termes de connaissances, de cours vraiment, où tu te retrouves en difficulté face à un examen que tu dois réviser, t'as pas tout compris, mais aussi pour des difficultés, on va dire, mentales. C'est-à-dire, tu te dis, bon, aujourd'hui, je dois passer 8 heures à la fac, alors que je pourrais passer 8 heures à travailler sur un projet qui me rapporte de l'argent. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou des difficultés pendant ces études?
Oui, bah déjà au bout du premier, enfin la fin du premier semestre, j'avais envie d'arrêter pour me lancer. Alors que j'avais validé mon semestre, hein, j'avais validé, mais j'étais plus motivé à continuer mes études parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Je pouvais tout apprendre à côté sur Internet en étant autonome, on va dire, et en faisant des projets clients. Et en fait, je me suis rendu compte que après avoir choisi de continuer quand même ces études, que ça m'a permis vraiment d'approfondir certains points. Parce qu'en fait, le premier semestre, c'était vraiment les bases de l'informatique, parce qu'il y en avait plein qui n'avaient jamais appris à coder. Et du coup, vu que j'avais déjà ces premières bases, je voyais pas trop l'intérêt des études. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au second et troisième semestre, on a vraiment approfondi certains points comme le SQL, par exemple, c'était quelque chose que j'avais appris tout seul, mais j'avais appris à faire des requêtes, on va dire, assez simples. Et là, on a vraiment approfondi et vu l'ensemble des possibilités du langage SQL.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que ça note un truc hyper important, ce que tu viens de dire. C'est que quand on apprend tout seul, donc soi-même sur Internet, en allant chercher des formations à droite à gauche, des tutos à droite à gauche, bah en fait, je trouve que on n'arrive pas vraiment à quantifier notre savoir, notre niveau de connaissance. En fait, comme tu dis, on peut suivre un tuto de SQL, par exemple, ou de n'importe quel langage, de n'importe quel outil, et on suit ce tuto, on termine ce tuto et on n'arrive pas vraiment à se dire, ok, bah là par exemple, je suis à un niveau débutant parce que je viens vraiment d'apprendre les basics, ou alors je suis à un niveau intermédiaire parce que c'est un peu plus loin, ou alors je suis à un niveau pro. En fait, on n'arrive pas à savoir parce que bah, Internet, c'est un monde quasiment infini et on trouvera toujours des nouvelles choses. Alors que grâce à une formation payante, gratuite, peu importe, ou qui soit reconnue par l'État ou pas, bah, ça met déjà un cadre et on arrive à se dire, ok, là, ce que j'ai appris, c'est des bases, ou alors avec ce que j'ai appris, je peux déjà prétendre à tel ou tel poste dans une entreprise, etc., etc., quoi.
Oui, exactement, oui.
Et est-ce que, du coup, tes études ont été, enfin, le choix de tes études, est-ce qu'il a été influencé par tes premières expériences en tant que freelance, on va dire?
Bah en fait, j'avais envie de devenir développeur depuis que j'étais à la fin du collège, on va dire, depuis la troisième. Je savais déjà que je voulais m'orienter vers cette direction. Et donc, j'ai suivi un peu le cursus pour aller jusqu'à un DUT. Et donc là, aujourd'hui, je suis en licence pro de développement. Donc, c'est un peu plus approfondi, on va dire. Et donc, oui, j'ai un peu suivi la direction que je m'étais fixée au collège. Et c'est intéressant de voir de l'évolution et de voir que plus ça va dans le temps, plus on approfondit, plus on développe une compétence spécifique parce qu'en DUT, par exemple, on voyait tous les domaines de l'informatique. Et là, je suis vraiment orienté vers le développement web.
Ouais. Et puis, enfin, surtout quand je vois un peu les missions sur lesquelles je travaille, c'est spécialisé web, certes, mais c'est encore plus spécialisé que ça, parce que tu travailles vraiment sur un type de projet.
C'est ça, oui. Je me suis orienté. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an là que je me suis orienté vers le e-commerce et vraiment précisément sur du Shopify. Donc Shopify, c'est une plateforme qui permet de créer des sites e-commerce en ligne. Et donc je me suis orienté là-dedans parce que j'avais une opportunité avec un client. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Et du coup, aujourd'hui, je suis plus que ça. Et je suis
Ok.
en train aussi de développer en parallèle une application Shopify. Parce qu'en fait, sur Shopify, on peut installer des applications dans notre boutique. Et ces applications, elles sont toutes payantes. Shopify prend 20% de commission sur ces applications-là. Et le reste revient au créateur de l'application. Et donc là, je suis en train de regarder comment on peut développer une application. Et ce qui est bien, en fait, c'est que les applications, on peut les développer en React et Node.js, qui sont des compétences que j'ai et que j'utilise pour mes projets et que j'utilise aussi en alternance.
D'accord, top. Ouais, effectivement, bah, ça fait une bonne transition parce que j'allais commencer un peu à te parler de ton point de vue, enfin ta vision de la liberté et qu'est-ce que tu prévois de faire dans les prochains mois, voire même prochaines années. Donc là, en fait, on voit que tu commences déjà à. Alors, je sais pas si tu penses vraiment, par exemple, à l'indépendance financière quand tu te lances dans des projets comme ça, ou est-ce que c'est vraiment par pur plaisir et que tu dis bon bah je fais ça parce que j'ai le temps sur mon temps libre et après on verra si ça me rapporte. Mais ouais, quels sont tes projets on va dire à court, moyen terme à l'heure actuelle?
Donc l'objectif pour moi, c'est de réussir à multiplier mes sources de revenus. Donc c'est pour ça, là, je suis en train de créer une application, essayer d'apprendre à créer des applications pour ensuite, quand j'aurai beaucoup plus de temps, quand j'aurai fini ma formation de licence pro, essayer de prendre du temps pour créer des projets personnels à côté de mes missions clients, pour créer des applications et avoir d'autres revenus que les projets clients. Et comme ça m'évitera aussi de passer trop de temps et avoir plus de temps aussi pour moi pour faire d'autres projets encore à côté et encore multiplier mes sources de revenus.
Ouais, tout à fait. Et est-ce que justement ça te fait un peu peur maintenant que tu vas terminer tes études? Parce que bon, là je suppose, et sans rentrer dans les détails parce que c'est ta vie personnelle, mais je suppose que quand on est étudiant, on peut avoir besoin d'argent, mais on a moins cette pression de se dire, je sais pas, j'ai des factures à payer, j'ai le logement à payer, enfin vraiment, je suis indépendant financièrement. Et est-ce que ça te fait pas un peu peur justement de te dire, là je vais me lancer à mon compte, enfin 100% de mon temps à mon compte, je vais pas rentrer dans une entreprise, il n'y a pas un patron qui devra me payer tous les mois. Est-ce que ça te fait pas un peu peur de te dire, bah est-ce que je vais trouver une mission le mois prochain, est-ce que je vais gagner assez, etc., etc.
En fait, actuellement, j'ai énormément de missions. Enfin, j'ai énormément de demandes et de missions. Du coup, pour l'instant, j'ai pas peur. J'arrive à me tirer un salaire. En fait, j'ai mon salaire d'alternant. Et à côté, j'arrive à me tirer le même salaire, même un peu plus, selon les mois. Des fois, j'arrive à tirer beaucoup plus que mon salaire d'alternance. Donc, ça me fait un beau salaire à la fin de chaque mois quand j'ai mon salaire d'alternance plus mes missions. Donc, j'essaye de mettre beaucoup d'argent de côté. J'épargne beaucoup d'argent. Je suis aussi en train d'apprendre à épargner de l'argent avec la bourse et d'autres moyens. Enfin, je suis en train d'apprendre à comment je peux multiplier mon argent que j'ai de côté. Un peu grâce aussi à Axel Paris. Il fait beaucoup de contenu là-dessus en ce moment et
Ouais.
c'est très intéressant. Enfin, c'est très inspirant et c'est très intéressant aussi de voir comment lui il gère ses revenus. Et en fait, on a un peu le même profil. Il est aussi alternant et il a aussi des revenus à côté par ses activités. Et du coup, je pense que c'est important d'épargner et prévoir aussi, voir dans le futur comment on peut multiplier son argent et gagner encore plus d'argent et pour faire d'autres projets et vivre mieux, on va dire.
Ouais,
Donc c'est pour ça,
carrément.
là, je suis en train de me concentrer un peu là-dessus, à côté de mes missions enfin, c'est un point en fait que j'avais pas du tout pensé avant quand je gagnais un peu d'argent. Quand je gagnais un peu d'argent, c'était vraiment de l'argent que j'utilisais pour moi, pour vivre en tant qu'étudiant. Mais maintenant que j'ai un salaire d'alternance plus des revenus à côté de freelance, bah en fait, j'ai pas besoin d'autant d'argent. Je pourrais travailler moins et complètement travailler peut-être une journée ou deux en freelance par mois et ça me suffirait pour vivre avec mon salaire d'alternance plus les revenus. Mais j'essaye de prévoir aussi à long terme. Du coup, j'essaye tous les mois, j'épargne une somme et j'essaye de gagner encore plus et de prévoir aussi en septembre si jamais je sais pas si pendant 3-4 mois j'ai pas de mission et bah du coup j'aurai quand même des ressources à côté pour vivre et pour me lancer sur des projets.
Ouais, le temps de réagir, quoi, mettre la sécurité. Et en fait, je pense qu'il y a un truc, j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce que là, on parle un peu de, bah voilà, du matelas de sécurité, d'investissement, à la fois en temps et en argent. Mais je pense qu'il y a un truc auquel on ne pense pas forcément, qui est aussi la sécurité, non pas en termes de matelas de sécurité, donc la sécurité financière, mais aussi en termes de, bah, ce qu'on a à l'intérieur de notre tête et aussi notre présence en ligne. En fait, moi, je le vois beaucoup parce que, bah, typiquement, la chaîne YouTube, qui est un assez gros investissement pendant plusieurs années, hein, ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant que je bosse sur ma chaîne YouTube. Bah, c'est aussi un investissement dans le sens où ça, plus mon LinkedIn, bah, ça me permet de trouver, on va dire, assez facilement des missions ou des entreprises qui auraient besoin de mes services ou à qui je peux apporter de la valeur. Et est-ce que justement, enfin, toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu as une stratégie particulière pour te faire voir en ligne et trouver des nouveaux clients ou c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et t'as pas eu à forcer là-dessus?
Ouais. Bah, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé aussi, enfin qu'on n'en a pas parlé dans le podcast, mais au début, quand je me suis lancé en freelance, j'ai aussi lancé un compte Instagram où je postais la première année des photos tous les jours de mes activités pour montrer ce que je faisais, mes apprentissages, tout ça, pour un peu créer un réseau. Et du coup, quand je me suis lancé en freelance, c'est un peu sur Instagram que je me suis réfugié pour trouver des clients. Il y avait des gens qui me contactaient par message. Et c'était intéressant de trouver des clients comme ça. Et puis petit à petit, je me suis un peu délaissé, enfin, j'ai un peu mis Instagram de côté, même si je suis monté à 25 000 abonnés sur Instagram. Et je me suis concentré plutôt sur mon réseau LinkedIn, aussi sur la plateforme Malte, qui m'a beaucoup aidé à trouver des missions de freelance. Mais maintenant, j'ai tellement de demandes sur LinkedIn que, en fait, pour l'instant, je ne prends pas trop le temps de réfléchir à comment je peux me positionner, parce que les gens, ils viennent directement à moi sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit. Mais par la suite, déjà, je vais refaire mon site, mon portfolio, je vais le refaire. Et je vais essayer aussi de créer un peu de contenu en ligne avec un blog et peut-être commencer à poster un peu sur LinkedIn du contenu pour trouver des clients dans le domaine que je souhaite et sur la niche que je veux me situer.
Ouais, voilà, au final, c'est un investissement. Tu t'investis dans, par exemple, là, on parle de la création de contenu en ligne, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou autre chose. Et voilà, c'est au lieu de placer ton argent quelque part, parce que tu n'en as pas, parce que tu es étudiant ou pour raison X ou Y, bah, tu places ton temps quelque part, tu l'investis dans quelque chose. Et après, ça, c'est limite si ça se met en roue libre et ça te ramène des clients automatiquement, quoi. Et comment tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance, donc on va dire qu'il a déjà les compétences nécessaires, qu'il est déjà capable de créer des premiers sites, des premières applis ou développer des premiers logiciels pour se faire payer, comment tu conseillerais, enfin quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'a pas spécialement de visibilité parce que il n'a pas investi son temps encore dans la création de communauté ou il n'a aucune visibilité, on va dire. Comment tu lui conseillerais de trouver des clients?
Alors tout d'abord, le plus simple, c'est de, enfin le plus rapide, et c'est le truc qu'on pense pas, c'est l'entourage. On peut avoir des amis, des parents d'amis qui ont besoin d'un site. Et moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé. J'avais un ami, sa mère, elle avait besoin d'un site en ligne. Du coup, ça m'a permis de travailler pour un client. Et après, il faut aussi penser à contacter aussi d'autres développeurs. Par exemple, c'est un truc qu'on ne pense pas du tout, mais contacter des développeurs qui sont dans la même niche que nous, ça permet de se faire connaître, de se montrer, dire qu'on est là. Et comme ça, on peut se faire contacter par d'autres développeurs par exemple, si un développeur est bien positionné dans cette niche et qu'il a trop de missions, eh ben, il pourra te recommander au client et dire je vous recommande cette personne. Et donc ça permet de trouver des missions un peu comme ça grâce à d'autres à son réseau et facilement trouver des missions sans avoir à construire une notoriété, sans avoir à construire une communauté sur Instagram, une communauté sur Twitter, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, juste en contactant des développeurs et en créant un réseau de développeurs, on va dire.
Ouais, c'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'on se dit bah je vais pas contacter la personne qui est dans la même niche que moi parce que je vais lui piquer des clients, je vais lui faire concurrence, mais au final, c'est vrai que y a quand même pas mal de domaines où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et donc forcément tu peux venir un peu. Tu viens plus en soutien qu'en concurrence, quoi.
C'est ça, exactement, parce que dans le développement, il y a énormément de demandes. On n'est pas un domaine où c'est bouché ou qu'on doit se faire concurrence. Il y a énormément de demandes et en fait, on peut facilement trouver des missions grâce à d'autres personnes ou à des recommandations de d'autres freelances et d'autres
Ouais.
amis, par exemple.
Et est-ce que t'as pas peur justement que comme c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de demandes, forcément il va y avoir de plus en plus d'offres, parce que c'est un domaine, on se dit ça gagne bien, enfin on voit de plus en plus de gens hein, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui sont développeurs freelance, qui gagnent bien leur vie. On se dit attends, si eux le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et du coup qu'on assiste un peu à une vague, à une arrivée de plein de profils qui se forment dans ce domaine-là. Et que bah, ça inverse un peu la tendance. En plus, avec tout ce qui apparaît en ce moment comme outils, on parlait du no-code hein, en off tout à l'heure, plein d'outils comme ça qui arrivent, ne vont pas remplacer les développeurs, enfin en tout cas moi je n'y crois pas du tout, mais qui forcément, si c'est des outils qui sont de plus en plus performants, bah, ça ne remplace pas totalement les développeurs, mais disons que les développeurs qui ont moins de compétences que la moyenne et qui sont capables de faire pas grand chose de plus que ce que ces outils-là peuvent faire, bah est-ce que t'as pas peur justement que la tendance s'inverse et que alors je dirais pas qu'on assiste à une pénurie de demandes, mais que ce métier se perde un peu et que tu trouves de moins en moins de clients?
En fait, je pense que le plus important, c'est de réussir à se spécialiser dans un domaine précis et vraiment aller dans ce domaine et cette niche et proposer, enfin trouver son client idéal et vraiment s'orienter et aller chercher ce client en lui proposant du contenu, en échangeant avec lui, en lui demandant, en comprenant vraiment ses besoins. Et en s'adaptant, en lui proposant des offres à ses clients. Et je pense que c'est vraiment la spécialisation qui va faire que on va être différent et on va se positionner vraiment en tant que expert au lieu de développeur React. C'est un point important de se spécialiser. Par exemple, moi là, je suis en train de me spécialiser dans le e-commerce avec Shopify. C'est vraiment un domaine très précis. Il n'y a pas énormément de développeurs. Et mon objectif pour les prochains mois, ça va être de vraiment me former au e-commerce et continuer d'apprendre à utiliser Shopify, continuer d'apprendre à créer des applications, à me former comment je peux aider mes clients, comment je peux les conseiller aussi. Et je pense que c'est important de se spécialiser. Mais après, c'est vrai que quand on débute, enfin, on n'a pas forcément d'idée dans quoi on veut aller. Et en fait, l'objectif, c'est de tester un peu tous les domaines, tester plein de projets différents et contacter des personnes pour savoir ce qu'ils ont besoin. Et aussi, il est important aussi de regarder les technologies qui existent en no-code. Parce que ça peut être aussi une opportunité pour un client de lui proposer, par exemple, l'intégration d'un site vitrine avec Webflow. Et par la suite, peut-être retravailler avec ce client-là pour lui proposer un site un peu plus poussé, beaucoup plus poussé, et de faire quelque chose de plus différent du no-code et qui demande plus de compétences et de comment on va dire, d'options, enfin de...
Oui, c'est ouais, ça, de personnalisation.
C'est ça, de personnalisation.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que là, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui me font tilter. La première, c'est que effectivement, c'est pas parce que on assiste à l'émergence de ces outils qu'on appelle no-code que nous, en tant que développeurs, on ne sert plus à rien. Parce que on va pas se mentir, alors peut-être que ça va évoluer dans les prochaines années, mais à l'heure actuelle, on va pas se mentir, les outils no-code, il faut quand même une certaine logique de présentation, si on travaille plus sur du front, donc quelque chose de visuel, mais aussi une logique de gestion des données, de logique tout court, parce qu'il y a des calculs à faire, il y a de l'optimisation à faire, et ça c'est vrai que...
Ça demande quand même des compétences. Ça demande quand même des compétences spécifiques pour pouvoir utiliser ces outils et proposer. Même si c'est facile de l'utiliser, il faut quand même avoir des compétences. Par exemple, si on fait un site avec Webflow, il faut savoir quand même avoir des compétences de web design. On va pas faire un site en deux secondes en mettant un texte. Ça va ressembler à rien, on va dire. Et c'est des compétences spécifiques. Qu'ont des web designers qui développent qui réalisent des maquettes et qui réalisent des sites vitrines.
Ouais, c'est ça, en fait, ces outils-là, c'est facile de les utiliser, mais c'est plus difficile de bien les utiliser.
C'est ça, exactement.
Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, enfin plutôt souligner, c'est que tu disais, là justement, par rapport à des outils no-code, ce que je peux apporter moi en tant que développeur à mon client, bah, c'est tout simplement le contact, l'échange et comprendre vraiment son besoin. Parce que même si effectivement, on voit que l'intelligence artificielle sait faire de plus en plus de choses, on est encore enfin très 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 loin, de comprendre l'humain en fait, de comprendre vraiment ses besoins, parce que des fois, un client, enfin même le client ne sait pas ce dont il a besoin, et c'est là justement qu'en tant que développeur, en tant qu'expert, tu peux intervenir et lui dire, bon bah voilà, on va travailler là-dessus, est-ce que tu as vraiment besoin de ça, ou est-ce qu'au final, il ne te faudrait pas plus ça ou ça ou ça? Et ça, c'est une compétence qui peut très difficilement, voire même qui ne peut pas du tout être remplacée par des machines, des algos ou des outils sans aucune interaction humaine, quoi.
Oui, et c'est pareil. En fait, on se rend compte que quand on travaille avec des clients, il n'y a pas seulement des compétences de développement. Il faut aussi avoir des compétences pour comprendre les besoins du client. Donc, par exemple, si je travaille avec un cabinet de comptable, je vais pas faire que du développement. J'ai aussi besoin de comprendre comment le cabinet travaille, quels sont les besoins du cabinet, comprendre aussi comment chaque personne dans le cabinet, par exemple une comptable, ce qu'elle fait sur ce qu'elle va avoir besoin de faire sur l'application. Donc il y a aussi une logique métier derrière pour vraiment se mettre à la place du client. Donc je pense que c'est important aussi de spécialiser dans un domaine, par exemple si on spécialise dans le domaine de la comptabilité, et ben en fait on pourra proposer à des cabinets comptables des projets, enfin des applications en ligne vraiment spécifiques à eux.
Ouais, et d'où l'importance d'où l'importance de se spécialiser, comme tu disais tout à l'heure. D'une part, si tu te spécialises, tu as moins de concurrence. Donc, du coup, tu peux soit trouver plus facilement des personnes, parce que des clients vont venir vers toi justement parce que tu es spécialisé dans ce qu'ils attendent. Mais en plus de ça, tu pourras leur proposer plus que du simple développement parce que c'est ton domaine de prédilection et que, voilà, effectivement, c'est du conseil. Ouais, tout à fait. Dak, bah écoute, je pense qu'on a une bonne vision un peu de ce que tu fais. Juste petite question, ton quotidien aujourd'hui, il ressemble à quoi?
Du coup, je suis en télétravail depuis octobre, depuis le premier confinement, le deuxième confinement plutôt. En fait, j'ai fait mon stage, j'étais dans la même entreprise et je l'ai fait en télétravail. Et du coup, en fait, j'ai commencé mon alternance en août et j'ai commencé aussi en télétravail. Donc là, ça fait vraiment, ça fait un an que je travaille en télétravail avec l'entreprise dans laquelle je suis. Et sinon, bah, l'école, j'ai fait que le mois de septembre en cours. Sinon, je suis à distance depuis le deuxième confinement. Et donc, mes journées ressemblent à quoi? Je travaille la journée, donc on va dire de 9h à 17h. Quand je suis en entreprise, je travaille pour l'entreprise. Et quand je suis en cours, bah, ça va de 8h à 18h, on va dire. Ça dépend des jours, ça varie selon les jours. Je travaille pour l'école, et enfin, j'ai des cours en ligne. Donc ensuite, ma journée n'est pas finie. Je travaille ensuite le soir, donc ça... Quand je finis ma journée, ça peut commencer à 17h, 18h. Donc là, je travaille pour mes projets clients ou mes projets personnels. Où je passe du temps des fois à apprendre, à chercher, à regarder des vidéos aussi pour apprendre de nouvelles choses et continuer d'apprendre. Et ensuite, il y a aussi le week-end. Donc par exemple, aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui, du coup, je vais passer une partie de ma journée à travailler soit pour mes clients ou soit pour mes projets personnels. C'est quelque chose que je ne me force pas du tout à faire. En fait, c'est complètement naturel. J'adore travailler. Enfin, je suis hyper passionné par ce que je fais. Et du coup, je ne me force pas du tout. C'est pas quelque chose qui me demande de l'effort, on va dire. Enfin, je le fais naturellement. Même sur mes temps libres, quand je passe des fois du temps à lire des livres. Et c'est souvent des livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. Enfin, c'est des livres tournés là-dessus. Et je passe aussi des fois du temps à écouter des podcasts comme le tien, par exemple, ou à regarder des vidéos sur YouTube. Et souvent, c'est des vidéos tournées aussi sur ces domaines-là. Même si je prends aussi du temps pour regarder Netflix ou regarder des vidéos sur YouTube un peu amusantes, divertissantes.
Ouais, c'est ça, parce que j'allais te demander, est-ce qu'au final, t'as pas un peu une pression de te dire, bon, j'ai quand même trois activités différentes entre mon job, les études et les missions freelance à côté. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça te met pas un peu la pression de te dire, bon, je viens de terminer ma semaine, on est vendredi soir, cette semaine, j'ai pas du tout bossé pour mon client, il faut absolument que là, je m'y mette. Et du coup, ça te frustre un peu parce que, je sais pas, moi, il y a un anniversaire d'un tel, il y a une soirée, bon, là, il y a un peu moins de soirées en ce moment, mais... Voilà, est-ce que t'as pas cette pression au final de te dire j'ai trois activités à gérer? Des fois ça peut devenir compliqué, quoi.
En fait, souvent, quand je commence une mission freelance, je fais comprendre aux clients que je suis encore étudiant, enfin, que je travaille principalement le soir et le week-end. Et du coup, le client sait direct que je ne vais pas pouvoir travailler une journée complète sur son projet. Et en fait, il comprend bien et j'ai jamais eu de problème avec ça, avec des clients, que ça leur posait problème. Parce que j'arrivais à fixer des dates de rendu et je respecte tout le temps mes délais. Et du coup, ça, tant que je respecte mes délais, bah, le client, ça lui va.
Ouais, c'est ça. Et je pense que là, ça souligne un truc hyper important quand tu bosses avec un client. C'est vraiment de bien communiquer avec lui, aussi bien sur l'aspect technique, enfin sur ce qui est attendu. Typiquement, voilà, un client qui t'envoie un cahier des charges, bah, faut bien prendre le temps de voir avec lui si on est bien sur la même longueur d'onde, s'il n'y a pas un truc qu'on a oublié, parce que pour lui c'était évident, mais pour un développeur ça l'est moins, ou inversement. Donc ouais, ça souligne bien l'importance de la communication, vraiment,
Oui,
vraiment, vraiment
c'est
communiquer
hyper important ouais, de communiquer
avec le
avec le
client.
client, de faire des appels récurrents, enfin pas récurrents, mais quand on fixe des délais, faire un appel avec le client pour voir si ça correspond bien à ses besoins. Au début du projet, même avant le projet, de faire un appel avec lui, pas uniquement répondre à son message par mail et lui dire OK, je suis d'accord pour prendre la mission, voici le devis. Faire un appel avec lui avant et échanger avec lui. Et ça permet aussi d'instaurer un peu une confiance entre le client et la personne, donc le développeur, pour vraiment voir si on est sur la bonne longueur d'onde et si ça va bien matcher aussi parce que. Des fois, il y a des clients, on n'est pas forcément, enfin, on n'a pas forcément envie de travailler avec eux et on peut aussi refuser des missions si on voit que ça ne va pas bien se passer avec le client.
Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. Ok. Bah écoute, ouais, je pense qu'on a déjà pas mal de conseils là pour quelqu'un qui veut se lancer en freelance. Dernière petite question, est-ce que tu aurais des ressources particulières à partager aux auditeurs du podcast? Ça peut être n'importe quoi, un livre, un site, une série, peu importe, quelque chose qui t'a inspiré?
Oui, donc pour le freelance, ça serait le livre d'Alexis Michela. Je ne sais pas si tu connais, je dois l'avoir sous la main. C'est alors Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros.
Ok.
C'est un livre qui est disponible sur Amazon. Il a été lancé en janvier. C'est un livre vraiment complet. Il y a énormément de ressources dedans pour se lancer en freelance, même si on est déjà freelance. Ça permet de voir les différents points. Et même moi, après 3 ans de freelance, même si je ne suis pas freelance à plein temps, j'ai appris énormément de choses dans ce livre et je le recommande à toute personne bah, qui me contacte ou des amis qui sont freelance. Je leur recommande ce livre et franchement, c'est le seul livre aujourd'hui qui est sur le marché français qui parle vraiment au freelance et qui est aussi complet. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai pas vraiment de chaîne YouTube à recommander. Après, ça dépend vachement des domaines dans lesquels on veut s'orienter. Je lis aussi beaucoup sur Medium, sur Twitter, je passe aussi beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, je passe du temps à regarder un peu ce qu'il y a de nouveau. Je suis aussi abonné à des newsletters. Je trouve ça intéressant, les newsletters. Ça permet de ça, enfin, ça dépend sur quoi on s'abonne, mais il y a des personnes, par exemple, qui font des résumés d'un domaine précis. Par exemple, je suis une personne, un Français, qui fait une newsletter sur React et qui, toutes les semaines, fait un résumé hebdomadaire de ce qu'il y a eu de nouveau, les nouvelles technologies, les nouveaux projets intéressants. Et donc, c'est intéressant de suivre ce genre de contenu.
Ouais, c'est vrai que c'est top parce que ça te permet de faire un peu de la veille mais sans avoir besoin d'aller chercher à droite à gauche. Voilà, t'as un résumé.
Et
Ok.
sinon, côté podcast, j'écoute aussi du podcast. Il y a aussi bah, Tribindé, donc c'est le podcast d'Alexis Michela.
Ouais.
J'aime beaucoup ça. C'est un podcast aussi pour les freelances. Il fait des interviews de freelance et d'entrepreneurs, donc c'est hyper intéressant. Et sinon, il y a aussi ton podcast qui est intéressant pour les développeurs.
Super, merci. Bah écoute, en tout cas, ouais, je mettrai toutes ces ressources-là dans le lien de l'épisode. Merci beaucoup Alexis d'avoir partagé ton expérience. Et puis bah, on se dit peut-être à bientôt hein, pour un deuxième épisode, parce que je trouve qu'on a encore plein de choses, enfin, t'as encore plein de choses à raconter. Et on pourrait échanger comme ça hyper longtemps. Donc pourquoi pas à bientôt sur un nouvel épisode du podcast.
Bah, merci à toi et oui, à une prochaine fois.
Merci Alexis, salut.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.